Il est frais, mon podcast, il est frais.
Un combiné narguilé et cafetière qui fait aussi les pommes de terre frites. Incassable, cassier.
Le réfrigérateur doté du système de drainage pour les écoulements, étagère modulable, clayette, compartiment en congélation, capacité 3 litres, madame, j'ai le même à la maison.
Je suis Antoine et vous écoutez Ingévente, le podcast des ingénieurs commerciaux. Bonjour à tous. Si vous avez déjà déambulé sur un marché, vous connaissez ces slogans et sans doute bien d'autres. Parfois utilisés par des vendeurs de fromage, charcuterie ou fruits et légumes, ils sont surtout la spécialité d'un type de vendeur bien particulier, les camelots. Ces bonimenteurs vendent des écharpes se transformant en trousses à l'aide d'une longue fermeture éclair, des aspirateurs à acariens ou encore des oreillers mémoire de forme. On les trouve sur les marchés, les foires ou en porte-à-porte et ils ne sont pas prêts de disparaître. D'après les dernières statistiques, ils sont aujourd'hui 50 000 en France, soit deux fois plus que les marins-pêcheurs et presque autant que les professionnels du droit, pour vous donner un ordre de grandeur. Mais peut-on vendre comme un camelot en B2B ? Les camelots représentent un peu moins de 2% des quelques 2,8 millions de professionnels répertoriés dans la catégorie commerce des statistiques ministérielles. Pourtant, faites le test. Demandez à vos proches de vous décrire un commercial. Immanquablement, le portrait qu'ils dresseront rejoindra l'imagerie d'épinal de ces vendeurs de foire. C'est pas forcément péjoratif, hein, mais c'est disons connoté. Tiens, puisque vous tenez un proche qui a une opinion sur le sujet, posez-lui maintenant une deuxième question de ma part. Comment un camelot s'y prend-il pour vendre sur un marché ? Je vous parie que les deux réponses qui reviendront le plus souvent seront les suivantes. Il baratine. Et quel bagout ! Et il arnaque. Un camelot vend de la camelote. Logique, non ? Si vous obtenez d'autres réponses, venez me le raconter en commentaire parce que franchement ça m'intrigue. Alors, ces affirmations sont sans doute vraies, surtout pour la première. Il est indispensable dans ce métier particulier d'avoir une bonne prestance à l'oral. Et tous les produits vendus, pince à crémaillère, balai magique, râpe à légumes, ne sont pas forcément de première qualité. Mais réduire à ceci le métier de bonimenteur rate l'essentiel. Une méthode de vente redoutable est à l'œuvre derrière les démonstrations les plus farfelues. Vendre comme un camelot, une allégorie du commerce. Étudier ces démonstrations est des plus édifiants. Le métier de camelot, né sur les marchés médiévaux, n'emploie certes ni CRM ni lead tracker, mais ses concepts en sont si proches que c'en est confondant. Voyez plutôt. Pour qu'un camelot puisse vendre, il lui faut du trafic. Dans le jargon consacré, le public regroupé autour de son stand est appelé le trep. Sa phase d'acquisition va donc consister à entrepper. Le trafic froid du marché ou de la foire s'écoule autour de notre vendeur, à lui maintenant de constituer son audience. Ou plutôt, de faire en sorte de ne pas la perdre. L'adversaire principal du camelot, c'est le curieux qui s'arrête, regarde un instant et repart. Si le bonimenteur est en train de s'évertuer à démontrer pourquoi son produit est indispensable, l'attitude passagère du curieux va venir le contredire visuellement et perturber le reste de l'audience. La méthode basique va donc consister à toujours promettre une conclusion rapide, un payoff, à sa prestation. Donnez-moi encore 3 minutes. J'ai encore mieux à vous proposer si vous me donnez un instant. Je vous annonce le prix dans 5 minutes. Aucune de ces affirmations n'est vraiment exacte. Une démonstration durant en général, allez, autour de 25 minutes. Mais ce découpage temporel va inciter le chaland à rester. Qui n'aurait pas 2 minutes à consacrer à celui se targuant de remplacer définitivement votre vieille serpillière ? Cette technique va marcher tant que chacun aura au moins un intérêt poli pour le spectacle offert. Mais quand vient l'heure des premiers décrocheurs, le vendeur change de braquet. Créer des tribus. Un spectateur s'en va, notre camelot va immédiatement le prendre à partie. Bonne chance avec votre vieux couteau ! Ou encore, ne venez pas vous plaindre si vous continuez de perdre du temps. Il va ainsi actionner deux leviers. Déjà, les plus timides vont rester par peur de voir les feux se braquer sur eux. Ensuite, ceux qui demeurent captivés par la démonstration vont se sentir valorisés et reliés comme s'ils appartenaient à la même tribu. Plus ce lien sera fort, que ce soit par aversion envers les déserteurs ou par identification au vendeur, et plus le public du trep va juger positivement le produit proposé. Pour nourrir ce sentiment d'appartenance, le camelot va chercher des sensations réveillant une communauté d'expérience avec son public. Il va par exemple raconter des anecdotes d'enfance presque vraies dans lesquelles chacun pourra se reconnaître. Je me rappelle que, gamin, ma mère faisait toujours des petits boudins avec la serpillière. Ça pouvait être parce que le congélo avait dégivré ou parce que mon père n'avait toujours pas réparé la machine à laver. En tout cas, ça nous faisait rire avec mes sœurs, vu qu'on pouvait la suivre comme le petit pousset avec les gouttes de cette fichue serpillière. Il peut aussi parler de comment on interagit en couple avec son objet. Pour une fois, monsieur ne transformera plus la salle de bain en piscine municipale. Il prendra plutôt du plaisir à faire les carreaux. Le tout avec ce qu'il faut de gouaille et d'humour pour générer de la sympathie. Cliver pour réunir. C'est une méthode aussi connue que le proverbe. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et puisque vous êtes sur un marché ou dans une foire, les grandes surfaces peuvent constituer un ennemi commode et commun. Pour vendre, comme un camelot, il faut par exemple souligner son ancrage local. Je suis du coin, vous le voyez sur l'étiquette, j'habite à Souffelweyersheim. Rien que le fait que je sache le prononcer, ça en dit long. Vous comprendrez en creux que ces grandes multinationales et leurs centrales d'achat qui importent de Chine sont le mal. Même si, ironiquement, le produit du camelot vient sans doute de la même usine. Autres arguments dans la même veine, acheter chez lui, c'est privilégier les circuits courts et sauver l'emploi français, ma bonne dame. Et puis quand on regarde bien son produit, c'est une inspiration directe de ce que faisaient nos grands-mères, hein. Pas comme ces trucs développés par des gens de la capitale et fabriqués aux antipodes. Voilà le trèpe constitué. Autour du stand de notre héros, la foule est en place, liée par un sentiment d'appartenance et tenue en haleine. Elle veut voir de quoi il retourne. Si on voulait vendre un camelot, qu'aurait-on appris à ce stade ? Déjà qu'il faut constituer une audience, avant toute autre forme d'interaction commerciale, et établir un contact. Et ensuite, que si l'on veut vendre au plus grand nombre, il faut connaître sa cible et lui parler. Voyons maintenant ce que notre bonimenteur fait de ses prospects attrapés au sommet de son entonnoir de vente. Vendre comme un camelot, nourrir et réchauffer ses prospects. L'audience s'est arrêtée, posée pour un moment et accorde son attention. Mais elle est encore loin de vouloir acheter, et notre camelot ne le sait que trop bien. Pourquoi devrait-elle écouter le truculent personnage derrière le stand ? Déjà parce que sa démonstration va mettre tous vos sens en éveil. Votre vue s'émerveille des couleurs chamarrées des plats que prépare la mandoline de l'un. La serviette microfibre de l'autre vous interpelle au toucher. La forte voix du troisième, qui tonne par-dessus les rugissements de sa perceuse, impressionne vos tympans. Et vos papilles se régalent des sablés cuits dans l'incroyable poêle muslifonction. Tous les étages de votre cerveau sont désormais prêts à recevoir le message véhiculé par le bonimenteur. Le camelot va alors se saisir de l'occasion pour s'établir en figure d'autorité. C'est un expert de son domaine, pardi, et il va vous le montrer. Saviez-vous que le vinaigre blanc est bien plus efficace pour vos vitres que tous les produits chimiques vendus en supermarché ? Et tiens, tant qu'on y est à ouvrir des huîtres, le camelot qui est du coin peut vous indiquer le stand où l'on trouve les meilleures bourriches et les moins chères. D'ailleurs, ne commettez plus jamais cette erreur, la javel plongée dans l'eau chaude est bien moins efficace que dans l'eau froide. Ou encore, faites comme votre grand-mère. Faites sécher le linge dehors, au-dessus du gazon. L'herbe absorbant le gaz carbonique par photosynthèse, elle rejette de l'oxygène qui va préserver la blancheur de vos draps. Ces conseils sont prodigués gratuitement, et vous avez sans doute appris quelques anecdotes qui vous feront briller au prochain dîner en ville. Assurément, notre camelot s'y connaît, et vous commencez à vous sentir redevable. Utilisez le principe de réciprocité. Vous avez peut-être à ce stade goûté une pâtisserie ou confié votre sac à main pour que le bonimenteur en rénove le cuir. Et dans tous les cas, nous venons de voir qu'on vous a délivré de bons conseils. Inconsciemment, vous commencez à développer une légère culpabilité. Vous sentez poindre une obligation de réciprocité. Votre cerveau rationnel s'y oppose cependant encore assez farouchement, trouvant de nombreuses raisons de ne pas se laisser séduire. Ici aussi, le camelot à la parade. Les innombrables DEM déjà effectués, DEM, c'est le terme consacré pour la démonstration du camelot, permettent à notre vendeur de savoir exactement pourquoi vous ne voulez pas de son produit à ce stade. Et ce, presque toujours, sans échanger avec vous. Il va démontrer qu'il agit dans votre intérêt en reconnaissant spontanément et volontiers les points faibles de son offre. Vendre comme un camelot n'est pas synonyme systématique de bénéfices fantaisistes comme on pourrait trop souvent le croire. Ah oui, je sais bien que ce genre de produit finit toujours dans le fond d'un tiroir, mais le mien il est aimanté, donc vous pourrez le mettre sur la porte de votre frigo et toujours l'avoir à portée de main. Ou encore, comme la plupart des Français, vous avez déjà un robot électrique, alors pourquoi avoir un hachoir manuel, me demanderez-vous ? Parce que dans le cas de figure suivant, et là il énumère, c'est plus pratique, et que pour cet usage particulier, le rendu est bien meilleur. D'ailleurs, l'art de vendre comme un camelot n'est pas réservé aux camelots. Cette technique a par exemple été utilisée par la reine Elisabeth Ier lors de son célèbre discours de Tilbury. Sachant que la principale objection au sein de son armée à sa légitimité de chef de guerre reposait dans sa condition de femme, elle leur a tenu le discours suivant. Je sais que mon corps est celui d'une faible femme, mais j'ai le cœur et l'estomac d'un roi et d'un roi d'Angleterre. C'est moi qui vais être votre général et votre juge au moment de récompenser votre valeur sur le champ de bataille. Je sais que déjà, votre courage mérite des récompenses et des couronnes, et je vous donne ma parole de prince que vous les recevrez. » Quelques jours plus tard, l'armée anglaise mettait la grande armada espagnole en déroute. CQFD. Construire la confiance. Après avoir mis en avant ses bonnes intentions, le camelot va étayer son argumentation en construisant son crédit auprès de son public. Premier vecteur, le bonimenteur va rappeler qu'il vient sur cette foire depuis des années et que si ses produits n'étaient pas de qualité, on ne l'accepterait plus ici puisque ses anciens clients l'attendraient avec des fourches. C'est ce que Lynn Zucker a théorisé en Process-Based Trust. Les antécédents d'échange, qu'ils soient basés sur la réputation ou directement sur l'expérience, créent une impression de confiance sur l'auditoire. Deuxième levier, rappeler son appartenance à la communauté. Je sais que je l'ai déjà dit, mais vous avez envie de m'entendre le redire, alors souffle Weyersheim. On fait ici appel au Characteristic Based Trust. Si le spectateur considère que le groupe ou la communauté à laquelle appartient le camelot est digne de confiance, cette confiance bénéficiera également directement à notre vendeur. Et c'est pour ça que je fais confiance à tous les Alsaciens. Troisième lame, utiliser des références, que ce soit un diplôme du concours Lépine ou une petite étiquette vue à la télé. Lynn Zucker le définit comme Institution-Based Trust. La confiance est ancrée dans le monde extérieur, par association institutionnelle du camelot à des ensembles plus larges et plus réputés. C'est également ce que Robert Cialdini qualifie de preuve sociale. Récapitulons. En jouant de la psychologie du trèpe, le camelot a transformé une attitude passive ou réfractaire en un véritable intérêt pour sa solution. Il a guidé ses prospects dans l'entonnoir de vente en se connectant à eux par réciprocité et sympathie pour créer un contexte positif. Ensuite, il a établi son autorité et affirmé sa preuve sociale. Il est maintenant grand temps pour lui de vous faire passer à l'action en abattant ses dernières cartes. Vendre comme un camelot, conclure la vente. Le produit proposé vous intéresse désormais, mais vous ne connaissez pas encore son prix. Et puis il y a tant de stands sur ce marché, est-ce que celui-là c'est le bon ? C'est là qu'intervient un premier tournant décisif. Le bonimenteur doit vous convaincre d'acheter ici et maintenant. Il sait très bien que si vous décollez de son stand, vous ne reviendrez pas. Il va donc actionner votre aversion à la perte en construisant l'urgence. C'est maintenant ou jamais, ce sont les derniers produits de cette gamme et on ne les produit plus. Ou encore, je ne passe sur ce marché qu'une fois par an. Est-ce que vous voulez vous embêter avec votre vieille serpillière 365 jours de plus ? Ou encore, la foire se termine demain. Je compte pas du tout tout emballer. Le prix que je vais vous faire, vous ne le reverrez plus jamais. Vos doigts se resserrent sur votre portefeuille, votre gorge se noue, l'apothéose approche. Et pourtant, elle pourrait bien ne jamais intervenir. En effet, vendre comme un camelot, c'est aussi s'assurer d'avoir un premier acheteur avant même d'enclencher la conclusion de la démonstration. En effet, si tout de suite après la conclusion, un premier bras se lève pour acheter le produit démontré, notre bonimenteur sait qu'il a gagné. Cette première vente va enclencher l'effet foule, puisque d'autres voient de la valeur dans cet objet, c'est qu'il en a vraiment. Les ventes vont commencer à s'enchaîner les unes aux autres. Traduit en termes B2B, le camelot cherche ses early adopters, qu'il qualifie lui bien plus poétiquement de baron. Il peut d'ailleurs arriver que notre vendeur triche un peu, en invitant un complice dans la foule pour endosser ce fameux rôle de baron. Pour s'assurer, à la loyale, de la présence d'un premier acheteur dans la trêpe, le bonimenteur emploie parfois une technique de vérification. Il va demander à la cantonade « Est-ce que quelqu'un est intéressé par une offre ultime ? Aujourd'hui seulement, je vous propose ce produit en lot, avec un cadeau supplémentaire !» Des doigts qui se lèvent, notre camelot enclenche sa conclusion et place le cadeau dans les mains des volontaires. Par principe de cohérence, ils vont acheter et déclencher l'effet foule. Et s'il n'y a pas de baron ? Si en revanche le camelot n'a pas de preuve tangible que quelqu'un est prêt à acheter, il ne va même pas présenter le prix. Au lieu de ça, il va reprendre sa démonstration, comme si de rien n'était. Oui, chercher à conclure et rater sa cible, c'est risquer d'essuyer un refus. Et celui-ci, toujours par effet foule, va entraîner tous les autres. Notre camelot va donc traquer tous les signaux faibles qui pourraient indiquer le désintérêt du trèpe. Ont-ils les pieds tournés vers l'extérieur du stand ? C'est qu'ils sont prêts à partir. Mieux vaut attendre que le cheptel se renouvelle. Saviez-vous qu'il existe un autre élément qui peut pousser un camelot à interrompre complètement sa dème ? La présence dans le public d'un barbu. Bon, ce podcast est déjà assez long, alors si cette anecdote vous intéresse, venez me poser la question en commentaire sur le blog ingvente.fr/podcast et je vous promets de développer. L'apothéose du coup de casque. Notre vendeur a trouvé son baron. Il peut donc asséner son coup de casque. C'est la révélation du prix. Les camelots ont beau prétendre proposer des affaires, leurs prix sont généralement plus élevés qu'en grande surface ou sur internet. Il leur faut donc accompagner le prix, ce qu'ils font généralement de deux manières. L'ancrage. Première technique, empiler tout un tas de produits additionnels ajoutés en lot au produit principal. L'aspirateur se fait escorter de sacs anti-retours, d'un embout spécial, d'une rallonge électrique, du numéro de téléphone de la crémière, bref, vous avez saisi l'idée. Le bonimenteur s'empresse d'additionner la valeur théorique de chacun des biens individuellement et vous sort un total énorme. Il enchaîne immédiatement derrière avec une offre spéciale, aujourd'hui seulement, créant l'urgence et divisant ce total par 3. Noyé dans cette masse d'informations, vous ne réalisez plus que, malgré cette superbe offre, ça reste très cher pour un aspirateur. La mise en contexte. Cette seconde technique relativise le prix immédiatement après son annonce. Le prix de l'oreiller à mémoire de forme, garanti 10 ans, sera ainsi divisé par 3650 jours. Ce qui fait seulement 5 centimes par nuit. Dans la même veine, le vendeur pourra comparer son produit à un autre. Monsieur a acheté une perceuse à 450 euros pour faire 3 trous par an. Eh, ça fait 150 balles le trou. Et vous, madame, vous n'auriez pas le droit d'investir dans un balai qui vous servira tous les jours. Oui, vendre comme un camelot n'est pas forcément compatible avec la paix des ménages. Vendre comme un camelot, la conclusion. Vous le voyez, vendre comme notre bonimenteur, c'est bien plus que baratiner et ou arnaquer. Ça demande une méthode et une structure. Et comme on l'a vu, ces éléments sont assez proches des vérités universelles de la vente. Le cycle de vente est un entonnoir. On commence par accrocher l'attention des prospects. Il faut ensuite développer leur intérêt et les impliquer émotionnellement. La démonstration vient éveiller leur désir en présentant des avantages. Et enfin, le moment de la conclusion doit être bien choisi et ne surtout pas intervenir trop tôt. Et au passage, quasiment tous les leviers psychologiques vont être actionnés. Les biais cognitifs, les biais de jugement, les biais de raisonnement. Bon, très bien. Mais pour en revenir à notre question initiale. Peut-on vendre comme un camelot en B2B? Franchement, non. Mais, je vais vous dire, non mais. La méthode de vente du camelot a fait ses preuves. C'est pas un hasard si elle a traversé des siècles et qu'elle fait encore bouillir la marmite de 50 000 professionnels en France. Mais essayez donc de vous incruster sur le stand Airbus au salon du Bourget. Pour vendre, mettons, le dernier A380. Constituez maintenant joyeusement le trep et enchaînez sur une dème de ce bel avion. Il ne vous reste plus qu'à repérer un baron, sans doute un émir qatari, et à asséner le coup de casque, en ajoutant aussitôt un lot de steward, le plein de kérosène, des appuis-têtes personnalisés et un créneau d'atterrissage permanent à Roissy. Évidemment, ça ne fonctionnera pas. Cette méthode n'est efficace que pour les petits produits. En effet, l'équation de la valeur n'est pas équilibrée. Pour pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un, il faut que sa satisfaction avec sa solution actuelle soit incomplète. Je pense que personne ne déteste sa serpillière, mais si un camelot vient vous proposer une solution plus pratique, vous vous souviendrez d'au moins une fois où vous avez fini tout mouillé à force de l'essorer. L'espace pour vous vendre une solution alternative est donc restreint, mais il existe. Vous allez alors calculer mentalement l'équation de la valeur en comparant le coût et les bénéfices. Comme le prix d'un balai absorbant n'est pas exorbitant, la liste des avantages que vous débite le camelot arrivera souvent à faire pencher la balance du côté des bénéfices. Vous jeterez votre bonne vieille serpillière et vous achèterez son balai. Mais pour la vente d'un produit plus complexe, comme ici notre avion, la récitation d'une liste d'avantages va souvent faire chou blanc. Pire, elle augmentera même votre sensibilité d'acheteur vis-à-vis du prix. L'équation de la valeur restera complètement déséquilibrée et vous ne vendrez rien. Vendre comme un camelot, c'est réciter avec emphase, bas goût et talent une partition bien réglée. Ça ne tient aucunement compte des envies et besoins individuels des acheteurs, puisque ça se concentre sur un persona. Le bonimenteur qui propose une perceuse va la profiler pour le jeune retraité qui bricole pour faire plaisir à ses petits-enfants. Celui qui promeut un aspirateur anti-acarien ciblera la jeune maman qui s'inquiète pour la santé de son bébé. Mais ce discours pré-formaté, forgé à l'expérience des foires, va finalement rater très souvent sa cible en omettant complètement les spécificités de chaque prospect. Le taux de conversion assez faible du camelot est compensé par l'énorme trafic généré par le marché. Mais tous les commerciaux ne peuvent pas se permettre ce luxe. Dans la vente B2B, et franchement même assez souvent dans la vente B2C, la première question des acheteurs, ce sera toujours « qu'est-ce que ce produit peut faire pour moi ?» Le fameux « what's in it for me » des anglophones. Pour répondre à ça, vous aurez besoin d'un dialogue et de poser les bonnes questions. Ces bonnes questions vous fourniront des bonnes réponses. Merci la palissade. Ça vous permettra de construire des solutions pour vos clients plutôt que des produits. Donc, solutions plutôt que produits. Et comme ça, vous pourrez faire pencher l'équation de la valeur du bon côté pour vous. Bon, tout ça, on va en reparler très bientôt. Vous m'avez déjà accordé beaucoup d'attention aujourd'hui et je vous en remercie. Ces deux sujets du questionnement et de l'équation de la valeur, ce sera au programme des deux prochains épisodes du podcast. Un peu de patience donc. J'en reviens à mon camelot. Le piège à éviter en B2B, c'est de vendre comme un camelot. Parce que oui, au final, appliquer les méthodes du bonimenteur en B2B, c'est un piège redoutable. Il n'y a pas que dans l'imaginaire collectif que le commercial harangue la foule et débite des avantages à n'en plus finir. Les commerciaux aussi s'imaginent souvent que cette méthode peut fonctionner pour eux. Pire, ils culpabilisent de n'être pas assez vendeurs et de poser des questions. J'ai rencontré beaucoup trop de commerciaux qui pensent que leur travail, c'est de réciter un pitch et de vendre du rabais pour actionner l'urgence. Mais quelle erreur! C'est ensuite ces mêmes vendeurs qui se lamentent de la faiblesse de leurs chiffres et qui finissent par changer de métier. Ne devenez jamais la caricature d'une caricature. Comme on vient de le voir, les camelots savent parfaitement nourrir leurs prospects, les mener au travers de la vente et conclure au bon moment et avec finesse. Et pourtant, on ne retient de leur méthode bien huilée que la surface, cette gouaille caractéristique indispensable pour attirer le chaland. Au final, que peut-on apprendre du camelot? Rappelez-vous, j'ai répondu non, mais j'ai aussi répondu non mais à la question de savoir si l'on peut vendre comme un camelot en B2B. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce mais? On peut déjà s'inspirer de notre vendeur de foire et retenir que vendre avec méthode est la voie la plus sûre vers la réussite. Mais surtout, on peut apprendre de son audace. Un camelot est en première ligne. Son taux de conversion très faible implique qu'il passe sa journée à essuyer des refus. La foire de Paris a par exemple attiré 486 000 visiteurs cette année. D'après vous, quel pourcentage de ces visiteurs est reparti avec un oreiller mémoire de forme? Forcément très peu. Le camelot pourtant remettra chaque jour son ouvrage sur le métier. En ne confondant pas le fait que le prospect rejette son produit avec un rejet de sa personne. Cette ténacité et cette lucidité sont au cœur de la psychologie du commercial qui réussit. Et ça tombe bien, parce que ça aussi, on va en reparler très prochainement sur le podcast. Conclusion. La prochaine fois que vous passerez sur un marché, allez faire un tour sur le stand du camelot. Observez son savoir-faire avec un pas de recul. Vous y verrez une belle masterclass de vente psychologique. Voyez comment il crée du trafic. Admirez sa façon de nourrir son trèpe. Essayez de relever tous les biais sur lesquels joue sa dème. Observez-le chercher son baron avant d'asséner le coup de casque. Et voyez comment l'effet foule agit pour l'aider à multiplier les ventes. Notez tout ceci et tirez-en les bonnes leçons. Vendez avec méthode, inspirez-vous de l'état d'esprit du camelot, mais n'imitez pas son style. Cet épisode vous a plu ? Alors, rien que pour moi, et pour tous ceux qui pourraient découvrir ce podcast à l'avenir, je vous propose de me mettre non pas une étoile, non pas deux étoiles, non pas trois ni quatre étoiles, mais bel et bien cinq étoiles sur Apple Podcast. Et sans augmenter le prix des consommations, je vous propose aussi de partager cet épisode avec un ami, un proche ou un comptable. Et si vous voulez savoir pourquoi les camelots ont peur des barbus, bah, venez en discuter dans les commentaires sur ingvente.fr/podcast. À jeudi prochain.